Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Jeune Ched, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous voici arrivé à la fin d'une étape importante de votre vie, celle qui clôt les 14 années d'enseignement que vous avez données au Collège de France, ce qui veut dire que d'autres perspectives s'ouvrent pour vous et donc pour ceux qui vous lisent. Alors je rappelle que vous êtes né à Luxembourg, que vous avez fait une partie de vos études supérieures à Strasbourg puis à Paris, que vous êtes agrégé de grammaire, membre de l'école française de Rome. Vous avez bien entendu dirigé de nombreuses fouilles archéologiques, vous avez été directeur d'études à l'école pratique des hautes études, section des sciences religieuses, où vous occupiez la chaire religion de Rome, avant d'être élu en 2001 au Collège de France. Et vous avez donc prononcé votre leçon inaugurale le 7 février 2002. Vous êtes depuis titulaire de la chaire Religion, Institutions et Sociétés de la Rome antique. Vous avez exercé et vous exercez toujours de nombreuses responsabilités, tant au Collège de France que dans les grandes institutions savantes internationales. Vous présidez un nombre impressionnant de commissions et de conseils savants dans le monde. Et nous avons déjà eu sur France Culture le grand plaisir non seulement de suivre vos cours, mais également de vous entendre, car nous avons déjà enregistré quelques entretiens. Alors, avant de vous demander quels sont vos projets, John Ched, j'aimerais aujourd'hui revenir avec vous sur certaines des questions que vous avez soulevées et traitées dans des travaux que nous n'avons pas pu diffuser sur notre antenne dans l'Éloge du Savoir. Nous avons dû en effet laisser de côté vos séminaires, les interventions des professeurs que vous avez invités, les journées d'études et les colloques que vous avez organisés ou auxquels vous avez participé, et bien entendu les livres. Alors, je sais que nous n'aurons pas le temps de tout dire, mais peut-être aurons-nous celui d'éveiller la curiosité de nos auditeurs. Alors cependant, pour donner immédiatement une idée de la manière dont vous avez renouvelé votre discipline, j'aimerais que vous commentiez à nouveau frais l'intitulé de votre chaire « Comment, aujourd'hui, pouvons-nous entendre, grâce à vous, ce qu'est la religion, ce que sont les institutions et ce que nous pouvons en déduire du fonctionnement de la société de la Rome antique, John Ched ?»
Étudier la religion à Rome, c'est parler d'institutions, publiques ou privées, et de la société, avant tout. Mais au premier degré, si vous voulez, la religion étant partie des institutions publiques, ça fait partie de la vie de l'État, des États, de la République, comme disaient les Romains, ça vous ouvre parfois des lucarnes sur ce qui se passe dans le pouvoir tout court. Et même dans la vie privée, vous avez un aperçu du fonctionnement du régime de la famille, ou des associations de toute nature de droit privé. Et enfin, vous avez une vue sur la vie sociale générale, puisque la religion met aussi en contact toutes les composantes de la société. Par exemple, on n'a qu'à penser à un sacrifice public où toute la cité se rencontre. Chaque communauté a sa religion. À l'école pratique, ma chère, s'appelait religion de Rome.
Au pluriel.
Au pluriel. Oui. Parce que dans la même cité, il y a plusieurs religions.
Parce qu'on a tellement l'impression, en vous écoutant, John Ched, que cette religion romaine est à la fois incroyablement ouverte et incroyablement contraignante en même temps, les deux en même temps.
Elle est ouverte en ce sens, les Romains considèrent comme normal qu'une communauté donnée ait sa religion. Et ils font ça comme ils veulent, à condition qu'ils respectent l'ordre public, point. Et tant qu'ils ne font pas des fêtes qui durent jusqu'à 4 heures du matin et suscitent une rébellion dans le quartier, la police ne vient pas voir. Ça ne les intéresse pas. D'autre part, ils sont a priori tolérants. Mais ils ont eux-mêmes un système très contraignant qui est rituel, puisqu'il faut toujours tout faire de la manière dont c'est prévu, au moment où c'est prévu, par la personne qui, etc. Et c'est compliqué, c'est long. Un sacrifice, ça dure pas une demi-heure comme une messe. Ça dure un jour au moins, ou un demi-jour, et parfois 3 jours, 4 jours. Donc c'est des parcours longs, rituels longs. En même temps, ce qui est extraordinaire, on a l'impression, comme ils insistent toujours sur la tradition, les ancêtres, les coutumes ancestrales, que c'est extrêmement réactionnaire. Et on présente souvent les Romains comme des gens qui n'aimaient pas les res novae, les révolutions, qui étaient réactionnaires. Oui et non, parce que ils aiment bien dire que des choses décidées par nos prédécesseurs, on ne touche rien, réactionnaire. Mais en même temps, ensuite, ils commencent à palabrer. Et les Romains sont des juristes nés. Ils commencent alors à trouver un moyen pour résoudre une injustice, par exemple. Et ils finissent par dire, les Romains, dans ce cas, on pourrait faire comme si A était B. Et ça donnera donc C. Et c'est comme si, qui sont le terme le plus fréquemment employé par les juristes romains, deviennent après des articles de jurisprudence qui deviennent complètement abstraits, et ça contribue à faire naître un droit qui peut fonctionner dans la Méditerranée ancienne, sans rien changer du droit de la ville de Rome. Et par exemple, il y a un exemple qui est particulièrement extraordinaire, pour les héritages en droit civil romain, peuvent hériter à la mort du père de famille, qui est le propriétaire de tous les biens, ceux qui étaient sous son pouvoir domestique au moment de sa mort. Mais avec la démographie de l'époque, il arrive souvent que le père de famille meurt quand sa femme est enceinte. Et en droit civil romain, l'enfant à naître ne touchera pas un copec. C'est comme ça. Alors les juristes constatent cette injustice, des gens manifestement disent « mais enfin, le petit,
ça va pas ».
Alors ils disent « oui, mais pour résoudre cette évidente injustice, on pourrait faire comme si cet enfant était né sous son pouvoir ».
Ce qui est vrai,
et
d'ailleurs.
Voilà.
Oui. C'est subtil.
Oui, oui. Et c'est extraordinaire.
C'est astucieux.
Et donc, ça montre comment ce côté réactionnaire, en fait, est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense. Enfin, j'ajoute à ça que les Romains étaient, c'était aussi un pouvoir. Et les Romains, qu'est-ce que j'appelle les Romains? Il y a Rome, le pouvoir impérial, mais il y a
tout l'Empire.
Les 1001 cités de l'Empire où c'est exactement pareil. Les religions locales sont insérées dans des systèmes de pouvoir locaux, et quand une communauté, quelle qu'elle soit, se rebelle, et notamment en s'appuyant sur une religion contre le pouvoir établi, ça se passe mal. Soit il y a des pogroms locaux, ça c'est l'événement le plus fréquent, pendant 2 siècles il y a souvent des pogroms locaux contre les chrétiens, notamment, et à la fin, les gens se tapent tellement dessus dans les quartiers qu'il faut envoyer la troupe. Et là, le pouvoir romain peut se trouver attiré vers ça. Il y a même des soulèvements violents, comme en Syrie-Palestine, où il y a les 2 guerres juives qui amènent à la destruction d'un pays, d'un temple, et avec toutes ses conséquences. Mais normalement, ça ne se passe pas de cette manière-là. Il y a de longues périodes de paix, et quand on lit les actes des martyrs chrétiens, on se rend compte à quel point les autorités romaines, les proconsuls par exemple, qui siègent aux assises et qui doivent interroger les provocateurs chrétiens qui cherchent la mort littéralement, sont désarmés, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Parce que la religion romaine est tout à fait autre. C'est, ils ne comprennent pas.
Et, ils doivent leur dire, installez donc votre Dieu et foutez-nous la paix.
Oui, non, mais ils disent, par exemple, on vous demande, et ça, c'est une époque à la fin du 3e siècle, quand l'Empire est dans de très gros problèmes, il y a une mode qui consiste à dire que tous les habitants libres de l'Empire, qui sont tous citoyens romains à ce moment-là, ça fait des millions et des millions, des dizaines de millions de gens, doivent sacrifier pour le salut de l'Empire. Et voilà que les chrétiens, certains chrétiens, refusent. Et alors, ils ont des gros problèmes, et le proconcil dit, mais enfin, imagine que tu sacrifies à ton Dieu, on te demande rien, on te demande de verser 3 grains d'encens dans le feu. Imagine que c'est à Jésus-Christ que tu sacrifies. Non. Imagine que c'est à un homme que tu offres une bonne odeur. Non. Imagine rien du tout. Tu verses, etc. Et le pauvre proconsul, il comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais à ce moment-là, ça se termine par offense à l'autorité et il y a des violences. Et puis très rapidement, ça devient des mouvements plus généraux. On peut considérer ça souvent comme des parties des guerres civiles, puisque une partie de l'élite aussi était devenue chrétienne, et donc à ce moment-là, il y a eu des vraies persécutions. Tout l'Empire romain n'a pas été tolérant, je viens de le dire, mais tout l'Empire romain, notamment les deux premiers siècles, et deux siècles et demi, n'était pas persécuteur, si vous voulez, dans leur essence, même si la patristique et l'apologétique chrétienne l'a fait croire, pour des raisons évidentes. Et puis, ça se termine avec Constantin, la paix de l'Église, et comme par miracle. Après, l'épée change de côté rapidement. Les cultes païens seront interdits et les païens seront persécutés. Ça, l'Empire ne change pas. Mais sinon, voilà, c'est à la fois stable et très souple.
J'ai été très étonnée, John Shedd, par le fait que certains des conférenciers invités par votre chaire faisaient des interventions très, très éloignées de son objet. Bien sûr, quand vous avez invité des conférenciers, on sait que les trois quarts travaillaient sur les rituels grecs ou romains, etc. Mais certains, par exemple, nous laissent perplexes. Alors, je pense, par exemple, à Catherine Soussloff, que vous avez invitée en 2014-2015, et qui a travaillé sur Michel Foucault et la peinture.
Alors, Catherine Soussloff et quelques autres, oui, ça a pu vous paraître étonnant, mais ce ne l'est pas du tout, parce que je n'ai pas été qu'un professeur du Collège de France, j'ai été vice-administrateur, et notamment dans le cadre du bureau du Collège, chargé des relations internationales. Et nous avons, avec un certain nombre d'instituts de recherche, comme l'Institut d'études avancées de Jérusalem ou de Vancouver, nous avons, ou des universités, nous avons des accords d'échange réciproques. Donc il y a des professeurs d'ici qui vont faire une partie de leur enseignement là-bas, et eux nous proposent des noms que nous élisons pour un mois de cours, ou pour 2 semaines, ou 1 semaine de cours. Et généralement, je m'adresse aux spécialistes du domaine qui, à ce moment-là, prennent en charge ses collègues. Et dans certains cas, ça ne fonctionne pas parce que soit le spécialiste n'est pas là, ou est c'est une année où il est dispensé d'enseignement et est enterré quelque part pour terminer un livre et inventer de nouveaux cours. ou pour toute autre raison. Et alors, comme toujours, quand on est le chef du service, ça vous retombe dessus. Et j'ai donc, j'ai même accueilli aussi une fois une spécialiste de la physique, de l'historiographie de la physique. Je crois qu'elle parlait de Marie Curie, si je ne me trompe pas.
Mais oui, j'ai vu ça.
Et ça, c'est parce que mes amis physiciens m'ont laissé tomber et ça m'est revenu. Et c'est donc moi qui ai, de façon très savante, présidé quelque chose que, où je ne comprenais rien. Donc j'ai fait ce genre d'écart, si vous voulez, à la discipline. Parce que j'étais en service comme responsable des relations internationales. Et au collège, tout est assez rigide. On ne peut mettre les choses que sous des chaires les cours. Donc, il faut toujours un professeur référent.
Et donc, la chaire religion, institution et société de la Rome antique s'est ouverte à toutes sortes d'objets très passionnants et très hétérogènes.
Et ce n'est pas comme... On peut parfois trouver des sujets abscons au regard de l'intitulé de la chaire, c'est parce que des professeurs ont des intérêts autres que ceux de leur matière. C'est permis ici, mais ce n'est pas cela. Là, j'étais vraiment en service
commandé.
Mais,
en service commandé. Déjà en 2008-2009, là, par exemple, Nicolas Margot, Kurt Wright, la reine Salique, la représentation de son autorité dans les palais royaux de la Renaissance et de l'ère baroque.
Oui,
c'était très très beau
thème. Nikki Cortright, c'était magnifique. Elle travaille sur ces galeries peintes de reines de France qui ne sont plus conservées, qui ne sont conservées qu'au cabinet des estampes et des dessins à la Bibliothèque nationale. C'est une historienne d'art que je connais. J'ai été avec elle et son mari à l'Institut d'études avancées à Princeton. Mais c'est avec...
C'est une Américaine?
Oui, c'est une Américaine qui enseigne à Amherst College. Et c'est une autre figure, si vous voulez, des invitations au séminaire. Vous avez peut-être vu parfois ce genre d'hésitation de domaine. Nous avons une règle d'or ici, c'est qu'un professeur retraité, comme je le serai dans quelques mois, n'a plus le droit d'inviter quelqu'un. Parce qu'on avait peur, je suppose, cette règle a été créée depuis longtemps. Elle existe parce qu'on voulait pas que les retraités qui ont beaucoup plus de temps que les actifs passent leur temps à inviter le monde entier, leurs amis, etc. Et en parlant avec Monsieur Fumaroli, nous avions évoqué, il m'avait dit « Ah tiens, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il vous connaît, etc. » Nikki Cortright. Je dis « Oui, voilà. » Et dans la conversation, moi je savais sur quoi elle travaillait, nous avons évoqué ce sujet, et puis de commun accord, là c'était pas du tout artificiel, parce que ça m'intéressait aussi, nous avons décidé de l'inviter. Mais ça se fait souvent qu'un retraité et un actif qui ont des idées communes invitent quelqu'un. Mais il y a une règle administrative derrière. J'étais le porte-parole de Monsieur Fumaroli, ce qui n'est pas déshonorant.
Alors, évidemment, vous avez également organisé un certain nombre de colloques, et là, pour le coup, vraiment touchant de très près vos intérêts. 2010-2011, aux abords de la clairière. Je me suis demandé si ça avait à voir avec les bois sacrés.
Oui, c'est certainement sur les bois sacrés. Oui, je pense que c'était un séminaire qui était consacré aux travaux que je fais sur un bois sacré dans la banlieue de Rome. Et on a essayé de parler de cette fouille, de réunir un certain nombre d'interlocuteurs qui ont fouillé ce lieu avec moi, pour parler, en gros, de ce qui va être un manuscrit sur lequel je suis assis et que j'attends impatiemment de pouvoir publier. À partir de septembre, ce sera chose faite. D'ailleurs, cette année, je ne sais pas si vous l'avez regardé, le programme, j'ai fait un séminaire, un bout de séminaire avec Olivier de Casanova. Puisqu'il y a à peu près 20 ans, on appelait ça, puisqu'on aime beaucoup les Trois Mousquetaires, 20 ans après, on l'a appelé...
Sur les bois sacrés, oui, je vois.
Les bois sacrés. Et donc on a repris nous quelques aspects de ce qu'on avait dit à l'époque et pour montrer que nous étions toujours plus ou moins d'accord avec nous-mêmes. Et nous avons examiné 3 nouveaux documents de bois sacré archéologiques.
On trouve encore des choses neuves.
Du côté de Venise, on en a trouvé un qui est assez spectaculaire. Et puis à Chassenon, par exemple, en Charente, on a trouvé quelque chose de tout à fait étonnant qui ne peut être qu'un bois sacré.
Vous pouvez nous dire ?
C'est un ensemble romain où, à côté d'un temple, un temple qui a déjà une forme assez originale, d'où sort une source, on a toute une série de trous creusés parce qu'il y a une sorte de météorite, je crois, qui a fait un sous-sol assez figé. Et donc, on a dû creuser des trous, et ça, pour l'archéologue...
Ça, c'est en France, alors.
C'est en France, à Chassenon, en Charente. On a trouvé toute une série d'emplacements qui ne peuvent être que des emplacements, c'est des choses de 3 mètres sur 1 mètre, pour des arbres. Donc, c'est un bois sacré. Et ça fait réfléchir, parce que, là encore, on parlait du poids du passé. Toutes nos études ont un passé et un raisonnement métahistorique. Et pour nous, un bois sacré, c'est quelque chose de chevelu, de sauvage, de tout ce qu'on veut, d'énorme, etc. C'est quelque chose, chez les anciens, quand on en voit, de très cultivé. C'est un peu comme les jardins japonais qui reconstituent une nature d'un certain type. Et on a un cas comme cela.
Alors c'est le cas aussi, par exemple, d'un colloque que vous aviez organisé en 2011-2012 sur le thermalisme, histoire d'un phénomène culturel et médical. Vous aviez fait un cours qui accompagnait un peu cette question.
Et on a fait un colloque qui est donc paru il y a 6 mois environ, et qui est très bien. Ça donne une idée sur ce discours médical.
Colloque, temple de Gaulle et d'Italie, nouvelles fouilles et découvertes. Vous avez l'air de dire à chaque fois qu'on découvre des choses tout à fait nouvelles, encore aujourd'hui. Tout à l'heure, vous nous parliez de textes, puis de lieux, et donc des temples en Gaule et en Italie. On en découvre encore,
Absolument.
C'est fou, ça, où ?
Absolument, un peu partout, à la campagne en général, ou alors on rénove dans des villes des monuments qu'on croyait connaître. Et puis, il y a eu depuis très longtemps, depuis 40 ans, beaucoup de fouilles et d'aménagements de territoires qui entraînent des fouilles où on trouve des nouveautés qu'on n'a jamais pu toucher avant ou qu'on ne voulait pas toucher avant. Et c'est le plus spectaculaire, c'est notamment en Italie, dans les provinces, et en Gaule, ici en France. On trouve des temples un peu partout, on étudie des temples. Et donc, il m'était venu à l'idée de réunir des gens qui avaient fouillé des nouveautés ou étudié de nouveaux temples.
Mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y en a beaucoup.
Ah, il y en a pas mal. Il y en a un certain nombre. Je vous cite, chez moi, par exemple, il y a un oppidum, qui est une colline où il y a des champs. On savait depuis longtemps, depuis le 19e siècle, qu'il y avait eu des bâtiments romains à cet endroit. Mais dans les années 80-90, on a commencé à fouiller cet espace. On a trouvé d'abord des espaces proto-historiques, un rempart, très bien, une nécropole, et puis un espace vide qui avait tout l'air d'être un espace public pour assembler. Et puis ensuite, à côté, une série de bâtiments qui se termine au IIe siècle de notre ère par un temple romain. Et auparavant, des différents espaces rituels, etc., pas connus. À 100 kilomètres de là, 80 kilomètres de là, au-dessus de Koblenz, un autre de ces oppidas, de ces places fortes qui sont en quelque sorte les étapes sur le chemin vers la cité avec son centre administratif de l'époque proprement gauloise, le Martberg. Et là aussi, on savait qu'il y avait eu un mur, on savait qu'il y avait un temple d'époque romaine, mais rien n'était conservé. Il y a eu une dizaine d'années de fouilles, et on a trouvé un très grand sanctuaire avec une évolution depuis l'époque du IIe siècle avant Jésus-Christ jusque sous l'Empire, avec des choses assez extraordinaires. C'est un peu partout comme cela.
Alors, 2014-2015, un colloque sur les nouvelles recherches sur le bois sacré de Déadia à Rome. Ça, c'est un peu votre coup de cœur permanent, oui. John Shedd.
Oui. C'est là que j'ai commencé et j'ai trouvé beaucoup de choses. Et on a beaucoup avancé, c'est-à-dire c'est une fouille difficile.
Alors c'est où exactement?
C'est vous le connaissez, la plupart des gens le connaissent parce que c'est l'endroit où le métro actuellement qui mène à Fiumicino passe près d'un pont suspendu triangulaire qui est sur une anse du Tibre. Ça s'appelle la Maliana. Le train s'y arrête, enfin si c'est pas le Leonardo, le train rapide, et c'est donc à 8 kilomètres de Trastevere à peu près, dans les banlieues. Et il y avait là un lieu de culte connu depuis, découvert au XVIe siècle, quand Léon X, puis ses successeurs construisent le château de la Maliana, ce château où Raphaël a fait des fresques, etc. Et tous les grands architectes allaient voir le pape par là, travaillaient peut-être par là, et on voit les premiers indices en 1521, quand Baldassare Peruzzi dessine ce qui est en fait l'entrée des thermes du sanctuaire en question. Il le dessine et c'est un relevé précis au centimètre près. Après, nous, on l'a étudié, relevé, dessiné, et on a vu que c'était un relevé très précis. Donc, à ce moment-là, il est connu. Et c'est à cette époque aussi qu'apparaissent deux documents qui sont parmi les richesses extraordinaires de ce lieu, c'est-à-dire des protocoles d'une confrérie sénatoriale de 12 sénateurs qui célèbre chaque année des sacrifices
donc,
à cet endroit.
Les frères Arval. Alors, ça, c'est... Enfin, on peut dire que c'est la confrérie que vous connaissez le mieux, peut-être, John Shedd. Parce que, au fond...
Et pas pour rien.
1972, je crois, votre thèse.
Oui, mais c'est pas parce...
Sur les frères Arval jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même un beau paquet d'années. Hein.
Oui. Non, mais ce n'est pas que je suis gâteux et que dès 72, je répétais les mêmes choses.
Non, bien sûr.
Mais c'est un sujet énorme.
Plus de 50 ans de travaux
sur
les frères Arval.
C'est un sujet énorme.
Et pourquoi c'est tellement énorme? Parce que, en fait...
Parce que d'abord, on a 140 inscriptions, dont les plus grandes ont à peu près un mètre carré et demi, et avec des tout petits caractères, jusqu'à 4000 caractères. Donc c'est pendant trois siècles, ces gens nous décrivent ce qu'ils font au cours de l'année, les rites qu'ils doivent célébrer, les élections qu'ils font, les décisions qu'ils prennent. Et à chaque fois, comme dans nos procès-verbaux, nous avons à la fin été présents, Monsieur Tartampion, etc. Et on a des listes de présence. Et donc, il y a le sujet par lequel j'ai commencé dans les années 70, parce que ce qui se faisait à l'époque, c'était la prosopographie, c'est-à-dire l'étude des profils de fonctionnaires, de politiques, pour essayer de reconstruire une institution, souvent des institutions qui ne sont pas connues par les textes. Et les frères Arval, on n'a presque rien dans la littérature latine, rien. Donc j'ai commencé par étudier ces prêtres à l'époque julio-claudienne, c'est-à-dire de 28 avant Jésus-Christ, en gros jusqu'en 68 après Jésus-Christ. Et ça, c'était ma première thèse. Ensuite, j'ai continué ça. Ensuite, il fallait un deuxième gros livre jusqu'à la fin, 304. Et puis, il y a le lieu. Il se trouve que ce lieu, dont je vous dis comment il a été découvert, est connu. Et quand je suis allé à l'école de Rome pour faire ce projet, on ne savait même plus exactement où c'était. Et depuis le 19e siècle, où les Allemands avaient creusé à cet endroit, trouvé beaucoup d'inscriptions, mais sans faire le moindre plan de ce qu'ils avaient trouvé, parce que ça a été fouillé comme on fouillait à l'époque, ça a été dévasté. Ils faisaient des petites tranchées pour suivre un endroit où ils avaient trouvé une inscription, etc. Ils ont trouvé beaucoup d'inscriptions, mais ils n'ont laissé aucun plan. Il y avait juste le fondement d'une rotonde, style Panthéon, et c'est tout ce qu'il y avait. Et pour le reste, un méchant plan antérieur aux fouilles d'un Italien dont on ne pouvait rien faire. Et donc, j'ai décidé de fouiller ça. Et ça a fait 45 ans de travaux dans une banlieue, parce que c'est comme une ville, hein. Il y a 3-4 routes, il y a des maisons, il y a le chemin de fer, il y a le collecteur des égouts, il y a tout, hein. Et donc, nous ne pouvions fouiller que de façon un peu habile, en sautant de jardin à cave. J'ai même fouillé sur les deux quais de la gare. Enfin, ça, c'est amusant.
C'est une aventure, oui.
Ah, c'est une aventure. Moi, j'ai adoré, hein. Et les gens sont charmants. Donc, on a fait cela. Ça occupait beaucoup de mon temps. Et enfin, je suis venu à l'idée, mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là ? C'est-à-dire, j'ai lu les procès-verbaux, ce qui était avant la liste de présence. Et je dois dire qu'au début, pendant 10 ans, je n'y comprenais rien. Parce que j'étais formaté par des siècles de pensée théologique chrétienne. Et j'étais absolument pas disposé à comprendre cette religion. Mais j'avais reçu une très bonne éducation à l'école pratique des hautes études, en suivant les cours de Robert Schilling, en religion romaine, et de Jean-Pierre Vernant, de Marcel Détienne, etc. Donc, à un moment donné, j'ai dû choisir ce qu'on faisait à l'époque, une thèse d'État, et j'ai choisi de faire la synthèse sur tout ça. Et ça m'a retenu jusqu'en 87, c'est sorti en 90. Donc vous voyez, j'étais occupé.
Et votre dernier cours, là, vous revenez encore sur les arbres.
Et comme c'est une exploration très compliquée, notamment dans la zone qui nous intéressait le plus, celle qui était devant le temple, sur les talus du chemin de fer, on m'avait donné 2 années de suite un fusil à un coup, c'est-à-dire j'avais le droit de faire mon trou pendant un mois, et après, au revoir, vous fermez et vous ne revenez plus. Et donc on a trouvé, mais pas exactement ce qu'on voulait, puisqu'on cherchait une aiguille dans une meule de foin.
Bien sûr.
Et là, un fusil, un coup, c'est pas bon.
Mais d'autant
j'aurais déplacé
que toutes les pistes
d'après
avaient été brouillées.
Il n'y avait plus aucune trace. Et on était perplexes, et ça nous a retardé un peu dans la publication. Et voilà que le chemin de fer italien nous a aidés. Ils ont fait un passage souterrain dans un paysage. Alors, l'un de mes succès là-bas, ça a été de faire classer cet endroit. Donc, dès que des travaux sont faits, le cadastre dénonce ça à la surintendance en disant, attention, à cet endroit doit être construit une maison, faites ce qu'il faut auparavant. Le chemin de fer ne s'est pas senti lié par cela. Ils ont détruit 2 murs antiques. Et donc, procès de la part de la surintendance, le chemin de fer a eu peur des juges italiens, à bon droit, et il nous a dit, mais vous pouvez faire ce que vous voulez pendant 6 mois, le temps qu'il vous faudra pour voir si nous avons détruit quelque chose. Et c'est une jeune collègue qui a pu nous remplacer dans cela, qui travaille pour la surintendance, qui est très bonne, et qui a eu à sa disposition plus de moyens en 6 mois que nous n'en avons eu pendant 40 ans, et surtout des engins modernes et tout. Et ouais, ça nous a résolu toute une série de problèmes en posant de nouveaux problèmes. Et le séminaire était justement fait pour 2 choses, pour parler de ça, qui reposait, qui on relance les dés, et désormais il y a de nouveau une voie de recherche ouverte. Mais là, il me faudrait l'aide de l'aviation, parce que si on ne bombarde pas les maisons qui sont à côté, je suis bloqué définitivement. Et puis la 2e chose que je voulais aussi, justement on était bloqué, parce que, pour vous le dire en un coup, il y avait un grand ensemble monumental de 150 mètres de long, couronné par le temple, terminé par les thermes, avec un grand espace, deux grands espaces intermédiaires. On avait des doutes sur la partie supérieure qui est sous la rotonde. La rotonde, les thermes et une partie de la partie inférieure sont du début du 3e siècle, après Jésus-Christ. Mais on avait l'impression qu'il y avait une partie centrale qui était plus ancienne, flavienne. Et là, c'est nous qui nous laissions induire en erreur par les inscriptions. Parce que les inscriptions montrent qu'il y a eu des travaux sous les Flaviens, entre 70 et 90 après Jésus-Christ. Et de nouveaux espaces sont créés en contrebas. Les inscriptions sont très précises. Et nous ne comprenions pas, parce que nous n'avions que quelques bouts de fondation d'un mur, là. Et notre collègue italienne a pu découvrir que nous étions à 1000% dans le vrai. L'ensemble est du début du 3e siècle. Alors, question, où est le bois sacré du 1er siècle d'Auguste? Alors, nous étions
magnifique.
De nouveau au début. Nous avions résolu un problème, mais un autre problème recommençait. Voilà, et donc nous avons travaillé sur les inscriptions elles-mêmes qui donnent des renseignements, parce qu'il y a des plaques qui se joignent à angle droit, par exemple, et qui délimitent un bâtiment rectangulaire qui peut être un temple, quelque chose comme cela. Et j'ai voulu exposer cela parce que nous avions nettoyé toutes ces inscriptions en 2012 avec des collègues du Musée national des thermes, aux thermes de Dioclétien à Rome, pour une exposition permanente dans le cloître Ludovisi de ces thermes. Et donc pour rendre justice à ce que le musée a fait et aussi rendre compte de nos études des inscriptions que nous avons pu arracher au ciment où ils étaient fixés depuis le 19e siècle, nous avons enfin pu les étudier. C'est pour cela que j'ai voulu parler de toutes ces vieilles enquêtes. Et puis, il y a un côté sentimental. J'aime
Mais
beaucoup
oui.
cet endroit et ses habitants.
Alors, on n'aura pas le temps de parler de tous ces magnifiques colloques, par exemple, sur les échanges culturels entre l'Est et l'Ouest de l'époque hellénistique à l'époque byzantine, ou encore sur les jeux séculaires sévériens, question d'établissement du texte et commentaire du protocole épigraphique. Ça, c'est des questions extrêmement pointues, naturellement. Est-ce que ça sera publié, enfin?
Oui, je prends l'exemple des jeux séculaires.
Oui.
Je suis très intéressé à ce document depuis toujours, puisque c'est le seul parallèle qu'on a de protocoles sacerdotaux de ce type. Et il n'y en a que deux, de l'époque d'Auguste et de l'époque de Septime Sévère, au 3e siècle de notre ère. Mais j'avais réussi, moi je n'arrivais pas, je faisais des remarques, des articles, mais je n'avais pas le temps de reprendre la publication des documents, qui étaient d'ailleurs difficilement accessibles à l'époque. Et j'ai trouvé par hasard une collègue suisse à qui on avait proposé de travailler, de faire une thèse sur le document augustéen, qui est une colonne de 3 mètres de haut, avec des tout petits caractères, etc. Et c'est un de mes collègues d'un séminaire de l'école pratique, qui était professeur à Zurich, qui l'a poussé à travailler sur cela. Puis elle est venue me trouver, j'ai dit... 100% d'accord, je vous suis, etc. Et elle a soutenu, je lui ai publié la thèse. Et immédiatement, j'ai commencé à la harceler en disant « Mais il y a un deuxième document qui est encore plus important parce qu'il est plus développé, plus difficile que le précédent, parce que beaucoup plus cassé que le précédent. » Et alors, elle m'a longtemps résisté. Et puis récemment, il y a 2-3 ans, elle m'a dit « bon, je suis d'accord » et un collègue suisse a financé, parce que en Suisse, souvent les chercheurs travaillent au lycée, elle a eu une bourse qui lui permettait de faire une recherche. Là, elle est en train de finir et j'ai voulu que ce soit exposé publiquement aussi pour la forcer à exposer, parce qu'à un moment donné,
et
il faut prendre...
Et ça a été exposé où, alors?
C'est dans le même cloître Ludovisi du Musée des Thermes, à côté du cloître de Michel-Ange. et on les a restaurés. Et l'occasion aussi était merveilleuse, puisque enfin, ça sortait des boîtes où c'était enfermé depuis des décennies.
Et mis à la disposition.
Et elle a pu les étudier vraiment de très près.
Et elle a pu les mettre à la disposition aussi d'un large public,
je suppose. Voilà. Oui, et maintenant, on peut, j'ose pas le dire, parce qu'il faut quand même bien voir pour tout voir, mais on peut au moins voir de quoi ça a l'air. Et donc, elle est venue exposer ça. On a discuté en détail pendant un jour et demi sur cette question. Et là, elle est en bonne voie pour... devrait terminer en fin de 2017, je crois, publié.
C'est très émouvant, toutes ces découvertes magnifiques. Mais quand on vous entend parler de jeune Shed, de tel jeune collègue ou de tel autre jeune collègue qui a découvert ou qui poursuit tel et tel travail, on a l'impression que votre discipline est en pleine effervescence.
Ben, nous sommes toujours
en pleine effervescence. Il y a plein de jeunes collègues qui travaillent.
Absolument. Et c'est ça l'histoire ancienne, hein, je l'appelle globalement, que ce soit les lettres, l'épigraphie ou l'archéologie, vivante. C'est des gens qui travaillent sur les sources. Ils ne se roulent pas dans la théorie, mais ils se roulent dans les sources. Et à chaque fois qu'on touche aux sources, on trouve quelque chose. Et je regrette quand on fait une découverte historique ou philologique ou autre réelle, ça vous récompense pour toute une carrière. Et il y a beaucoup de gens qui font cela. Et dans tous les pays. Et il est totalement faux de dire que l'histoire ancienne, par exemple, grecque ou romaine, ou quelle qu'elle soit, est quelque chose de moribond ou de mort. C'est faux.
J'aimerais bien qu'on parle de vos livres, John Shed, parce que bon, il y a ceux qu'on connaît qui sont de toute façon essentiels là pour le coup et à mettre entre toutes les mains, comme La religion des Romains, évidemment votre leçon inaugurale qui est formidable, et puis Qu'en faire, c'est croire. Alors ça, c'est les rites sacrificiels des Romains. Je crois que ça, c'est aussi un moment de coupure théorique. C'est vraiment le travail sur le pur rituel.
C'est-à-dire, j'ai au début, je comprenais rien à ce que les Arvales racontaient. Je traduisais ça comme on traduit une version latine, hein, sans toujours trop bien comprendre de quoi il s'agit. Et puis, à un moment donné, Claude Nicolet, c'était en hiver 76-77, m'a demandé de faire un chapitre pour la Nouvelle Clio, le deuxième volume de la Nouvelle Clio sur l'époque républicaine, la fin de l'époque républicaine qui préparait, sur la religion à cette époque. Et ça n'a finalement pas été publié, mais c'est Religion et piété qui en est sorti. Et en me donnant ça, il m'a surpris, parce que jusqu'à là, je n'avais rien écrit sur la religion, mais comme je vous avais dit, j'avais été bien formé. D'abord, ça c'est ma formation... dans ce que disaient les historiens des religions à l'école pratique, dans l'anthropologie sociale des religions, ou l'anthropologie religieuse, quel que soit le terme qu'on appelle, c'est que dans l'Antiquité, la religion est toujours un exercice collectif. Il n'y a pas de religion individuelle, privée, comme depuis le XVIIIe siècle, ou depuis Augustin, si on veut aller loin dans le passé. Oui. Mais la deuxième chose n'est venue que par le travail sur les procès-verbaux des Arvales, que j'ai fait jusqu'en 87-90. Et à ce moment-là, j'avais découvert que c'était un univers, que la deuxième grande qualité ou caractéristique de la religion romaine, c'était le sacrifice, le rite. Et donc, j'ai fait dans ce livre, d'une part, j'ai publié, traduit un certain nombre des inscriptions sur lesquelles j'avais travaillé, ou des grands documents sacrificiels romains, et puis j'ai attiré l'attention sur l'originalité de ce qu'est une religion fondée sur le rite, et qui n'a pas de révélation, pas de dogme, autre que celui qui est inscrit dans le rite.
Alors donc c'est paru chez Aubier en 2005. Moi j'engage tous les auditeurs qui veulent en effet prendre un vrai contact avec la pensée au fond, ce que les Romains ont dans la tête, à lire ce livre. Et puis les dieux, l'État et l'individu, réflexion sur la religion civique à Rome. Au fond c'est dans le prolongement de
oui, là
de
c'est
ce
plus
travail.
Historiographique, c'est ce plus que je disais au début.
Voilà.
Oui.
Et il y a alors un livre que j'aime particulièrement moi, mais que je conseille donc à tout le monde, qui est le livre que vous avez écrit avec Monsieur Sven Bro, La tortue et la lyre. J'aime beaucoup ce livre parce que, en effet, il renouvelle l'approche du mythe, John Shedd.
Oui, nous avons beaucoup, dans ma génération, entendu parler de mythe. On nous a parlé de ça à longueur de séminaire. Oui. Et nous avions tous nos opinions. Et moi, avec Jesper Svenbro, on appartenait au même centre. Lui, il était au CNRS, moi à l'école pratique. Et lui, il aimait bien enseigner. Moi, je devais enseigner. Alors, on a décidé de faire tous les 15 jours un séminaire sur un thème choisi, un thème commun. Lui, il l'abordait du point de vue de la Grèce et notamment de la poésie grecque. Moi, je l'abordais de façon plus générale et du point de vue romain. Oui. Et parmi les thèmes qu'on a trouvés, notamment, à un moment donné, c'était le thème du tissu et du tissage. Voilà. Et on a fait un premier livre sur qui s'appelle « Le métier de Zeus » et qui concernait donc cette façon typiquement antique de créer du mythe. Pour nous, le mythe n'est pas seulement du récit, c'est une conséquence du mythe, si vous voulez. Le mythe est plutôt une concaténation de catégories.
C'est ça, c'est le terme
concepts,
que vous employez d'ailleurs.
Voilà, concaténation, que je n'arrive jamais à prononcer, je révèle mes origines, mettent en relation deux ou trois notions qui sont évidentes pour tout locuteur ou pour tout observateur, ça peut être des objets, tout ce qu'on veut, ou une pratique comme le tissage, où un fil dur se croise avec un fil mou, coloré, l'un n'est pas coloré, l'autre l'est, pour faire un tissu solide. On fait un avec deux, et des éléments divers, et on peut utiliser ça pour représenter beaucoup de choses, à commencer par le mariage. Pourquoi les femmes, les mariées, se mettent-ils sous un voile nuptial? Ce sont ces rites-là qui sont en cause. Et donc, on a travaillé sur cela, et on avait, en quelque sorte, dans le frigidaire, toute une série de travaux qui ont d'ailleurs été faits au séminaire les premières années où j'étais au collège. Et sur des mythes divers, sur Kérambos, sur la tortue, etc. Et nous avions toujours cela sous le bras, et on n'avait jamais le temps de le faire. Et puis, il y a 2 ans, on a décidé de mettre un terme, de l'écrire. Et c'est devenu la tortue et la lyre.
Et c'est un travail interminable parce que vous avez pris d'ailleurs encore des exemples dans le dernier cours que vous avez donné, John Shedd.
Oui,
par exemple, tournant autour du Capitole, si je me souviens bien, la tête
du Capitole, comment elle a été interprétée, etc.
Mais oui.
Et comment un simple mot, caput, capitolium, où les Romains lisaient surtout tête, a pu générer des récits. Ce n'est pas le récit qui génère le mythe, mais le mythe qui génère le récit. Donc on a comme ça encore des choses qui courent sur ce sujet, mais c'est notre petite contribution à la mythologie, qui est un peu hérétique, mais ça fait pas de mal.
John Shedd, votre leçon inaugurale était un texte, en tout cas au départ, assez politique. Vous disiez, attention, si on ne s'intéresse pas à l'Antiquité, on aura des problèmes identitaires sérieux, ce qui est d'ailleurs tout à fait le cas aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Antiquité aujourd'hui est assez bien traitée, par exemple, par l'école? Est-ce que vous pensez que on est en danger d'une certaine manière avec cette acculturation qui nous coupe de l'histoire de l'Antiquité, John Shedd?
Oui, d'abord parce que je suis inquiet et je me demande, comme tout le monde, où cela va aboutir, parce que on ne peut pas se couper de l'Antiquité. D'abord, notre langue est une langue romane, elle dépend du latin, elle est formée par le latin. Et peut-être la chose la plus désolante actuellement, c'est qu'on considère que le latin est élitiste, alors que je ne vous parlerais pas aujourd'hui si je n'avais pas fait de latin au lycée. J'aurais au maximum pu rêver d'être instituteur, et sinon aller travailler à l'usine. Mais je ne comprends pas. C'est un des éléments de l'ascension sociale, comme d'autres matières, comme les maths ou même le français. Et je dirais que ce qui me chagrine le plus, c'est que le latin, qui est une façon de découvrir sa propre langue et de commencer à réfléchir sur les langues, parce que le français est, c'est comme ça, une langue sans flexion, sans déclinaison. Et c'est assez particulier dans les langues d'Europe, de ce point de vue-là. Et c'est une excellente manière de se préparer à l'apprentissage de langues qui ont des déclinaisons, comme le russe, comme l'allemand, et d'autres langues encore. Mais je crois que le latin, surtout, est lié à un problème plus vaste. C'est ça qui me chagrine, c'est l'apprentissage des langues dans ce pays. Je n'ai jamais compris comment on pouvait faire 7 ans d'anglais sans être capable de comprendre un western en anglais, ou sans commander un café ou un n'importe quoi dans un bar anglais. Pour moi, c'est incompréhensible. Et même chose pour toutes les autres langues. Donc c'est aberrant de faire cela. Et puis je suis choqué parce que notre culture est latine. Jusqu'à une date, jusqu'à François Ier, dans beaucoup de pays d'Europe au-delà, le latin tient une place extraordinaire. Oui, Jean Jaurès a écrit sa thèse en latin. Moi, je pense que c'est un élément absolu de la culture française et européenne. Et dans les autres, encore, si tous les pays avaient jeté le latin aux orties, on pourrait dire, on ne va pas résister. Mais ce n'est pas le cas.
Oui, on est en train de prendre un retard considérable.
Un retard énorme, énorme. Et puis, c'est lié aussi à l'histoire, parce qu'il y a eu une tendance à évacuer l'histoire du savoir. Or, sans histoire, je crois que on ne peut pas résoudre les problèmes avec l'histoire, mais c'est une façon de poser les problèmes. Et sans faire l'histoire, eh bien, on raconte des erreurs. Et très souvent, on entend des horreurs sur le passé, proche ou lointain. Non seulement parce qu'on ne connaît pas les documents, on n'est plus capable de les lire, on n'est plus capable de les citer correctement, mais on ignore même les événements. Nos parents ont vécu une époque où on voit ce que l'ignorance de l'histoire peut provoquer comme horreur, parce que c'était voulu et c'était falsifié consciemment. Certains moins consciemment, c'était la bêtise pure, mais il y avait des gens qui étaient pervers et qui transformaient l'histoire. Il y a un cas qui est assez proche, même s'il commence à être déjà plus loin. Prenez le conflit du Kosovo, la bataille du Champ des Merles. D'après ce que m'ont dit tous mes collègues de ces pays-là, quels qu'ils soient d'origine, m'ont dit que c'était un mythe médiéval complet et surtout un mythe d'instituteurs et d'intellectuels du 19e siècle. Et donc on fonde sur ça des politiques qui construisent à des vrais conflits,
à des crimes,
à des choses très graves, par pure ignorance. Si l'école avait tenu son rôle et avait enseigné l'histoire, au lieu d'enseigner des idéologies et des mythologies modernes, ce serait peut-être pas arrivé, ou en tout cas pas dans les termes où nous l'avons connu, ce problème. Ça, c'est un exemple, mais il y en a des dizaines. Et on raconte souvent des choses complètement ahurissantes quand on connaît un peu l'histoire.
Une question personnelle, est-ce qu'il vous arrive, John Shedd, de parler le latin avec quelques-uns de vos collègues japonais, chinois ou je ne sais quoi?
Non, ça depuis le lycée, je ne
vous
fais
ne parlez
plus ça.
Plus, vous
non.
Ne faites plus les...
Ça ne se fait plus du tout, mais c'est peut-être parce que j'ai été élevé du point de vue universitaire en France, où c'est strictement impossible. Mais dans d'autres pays, les pays de l'Est, c'est tout à fait possible. Hein. Et puis des Japonais, des Chinois. Les bons lycées enseignent beaucoup de latin aux jeunes Américains parce qu'ils veulent citer correctement les termes qu'ils emploient. Et vous entendez souvent Obama ou d'autres citer du latin. C'est parce qu'ils ont fait un bon lycée. Ils ne savent rien sur Cicéron, sur le monde antique, mais le latin scolaire, ils le connaissent. Et ça leur sert de moyen d'échange. Et je ne serais pas étonné que dans certains de ces lycées, de ces high schools, ils aient des clubs de débat, comme ils en ont souvent dans les colleges et les high schools, en latin. Ça ne m'étonnerait pas. C'est tout à fait dans le genre... Mais enfin, on peut toujours rêver.
On va vous regretter, John Shedd.
Mais il ne faut pas me regretter, il faut attendre la suite. Pas la mienne, parce que la règle ici, c'est que je passe dans l'ombre maintenant, on laisse la place au nouveau.
Dans l'ombre, enfin, vous ferez des livres. Vous ferez des livres.
Oui.
Je suis très touchée que vous ayez accepté cet entretien. Merci beaucoup.
C'est moi
beaucoup.
Qui vous remercie.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain avec le professeur Françoise Combe, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.